Nous venons d'entendre Claire. Maintenant, nous allons passer avec Basile. Basile, qui est l'auteur d'un livre « Je me suis fait larguer ». Bonsoir, Basile.
Bonsoir.
Comment allez-vous ?
Eh bien, ma foi, pas mal depuis la grisaille parisienne.
Ah, nous sommes à Bordeaux et il fait tout aussi gris, je vous rassure.
Bah, ok, alors j'ai bien fait de pas venir, alors si c'est pour avoir le même temps.
Voilà, c'est ça.
Bonjour à tous les auditeurs. Merci de me recevoir, même si c'est par téléphone interposé.
Mais je vous en prie, c'est avec grand plaisir. J'ai pu voir par le biais du net que vous aviez beaucoup de succès avec vos conseils. Donc nous sommes très preneurs de finalement comment, après une rupture, comment est-ce qu'on arrive à oublier la personne que l'on aime et qui nous obsède ? Dites-nous tout.
Eh bien, déjà en se mettant pas dans la tête qu'il y a un moment à partir duquel ce serait normal ou pas normal d'avoir oublié. En général, il faut prendre le problème à l'envers en fait. Il faut se demander quel est le moyen le plus sûr d'arriver à la dépression. Et un des moyens les plus efficaces d'arriver à la dépression, c'est de se fixer des objectifs inatteignables. C'est-à-dire que si vous dites, à un grand patron du CAC 40 que son objectif dans la vie, ça va être d'être président de la République, et que, à l'évidence, il y a quand même peu de chances qu'il y arrive, parce que si on lui dit ça une fois qu'il a passé 50 ans, tout ça, c'est, enfin, il faut s'y prendre plus tôt. Et ben, même si cette personne, elle a que des motifs de satisfaction dans sa vie, le fait de se mesurer à l'aune de son objectif qui va être d'être président de la République, eh ben, il va dépérir à vue d'œil et puis il va devenir complètement désespéré. Alors, vous allez me dire quel est le lien avec la rupture, Gina.
Mais quel est le lien avec la rupture, Basile?
Alors, en fait, souvent, ce que les gens s'imaginent, c'est que, et puis d'ailleurs, l'entourage des gens qui sont largués est généralement n'est pas avare de conseils en tout genre. Il y a une espèce de légende qui voudrait que au bout de 6 mois, il faut qu'on ait oublié, ou alors des calculs savants du genre tu prends la longueur de ta relation, tu la divises par 2, tu rajoutes 2 mois, et c'est la longueur du deuil au-delà duquel, si tu souffres encore, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal.
Ah oui, moi j'ai toujours quand même entendu qu'il fallait 10% du temps de la relation pour faire le deuil de la relation.
Eh bien, en fait, ce genre de calcul est très dangereux parce que d'abord, évidemment, il n'y a pas de règle, ça dépend des gens, ça dépend ça dépend de tellement de trucs que de toute façon, on ne peut pas en faire une règle. En revanche, ce qui est assez sûr, c'est que si on part en se disant, j'ai fait mon petit calcul, normalement, dans 3 mois, c'est fini, eh bien, dans 3 mois et 1 jour, si jamais on a un petit coup de mou le matin, eh bien, c'est pas juste un petit coup de mou. On va interpréter ça comme un petit coup de mou qui veut dire qu'en fait, on s'est pas remis de sa rupture, et là, drame, désespoir. On se met à sombrer dans les pires profondeurs parce qu'on se dit « c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas chez moi parce que je devrais avoir terminé et je devrais être remis de ma rupture ». Donc moi, s'il y a un truc que je conseille, c'est de finalement prendre les choses comme elles viennent et de surtout pas se fixer d'objectifs du genre « si j'y pense encore, c'est que c'est pas normal et c'est que j'ai pas résolu ma rupture ». Je vais vous parler de moi en vous disant quelque chose qui m'est arrivé il y a 2 ans. J'ai 2 petits enfants, 2 petits garçons, et puis un jour, j'avais décidé de leur montrer un film qui m'avait beaucoup plu quand j'étais petit. Ce film, c'est E.T. Alors du coup, je prépare un plateau télé, et puis on s'installe, etc. Et puis le générique commence, et puis mes enfants me disent « on l'a déjà vu chez maman ». Alors évidemment, moi ça m'a retourné. J'étais vrament très très déçu parce que j'avais préparé le truc et j'avais pas du tout pensé à cette hypothèse qu'ils pouvaient l'avoir déjà vu. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on déduit de ça? Est-ce qu'on déduit que je me suis pas remis de ma rupture? Non, évidemment, parce que c'est bien loin et bien derrière moi. Et donc l'idée qui veut que sous prétexte que on s'est remis d'une rupture, on ne puisse plus en souffrir, c'est une idée qui est très dangereuse parce que là, à l'évidence, vous pouvez me croire sur parole, je me suis remis de ma rupture et pourtant ça ne m'empêche pas d'en souffrir dans certains cas comme celui-là.
D'accord.
Du coup, il faut, à mon avis, pas confondre le fait de souffrir de la rupture et le fait qu'on en soit remis ou pas remis, et il faut pas non plus se fixer des objectifs en se disant à partir de 3 mois et 2 jours. Si c'est pas fini, c'est qu'il faut que j'aille voir un marabout ou je sais pas quoi.
Donc, ne pas se fixer d'objectifs et accepter finalement les émotions comme elles viennent, finalement le temps de ce qu'on peut appeler le deuil.
Ouais, et alors d'ailleurs, à ce propos, il y a un super bouquin de Christophe André qui s'appelle Les états d'âme, d'accord, qui est absolument génial, justement pour ce concept d'accepter les émotions un peu comme le flux et le reflux d'une marée, au lieu d'essayer de lutter contre. Et c'est vraiment un bouquin qui est salvateur pour ça, et qui est vraiment... Qui est vraiment super et que je conseille, qui est vraiment, vraiment un très bon bouquin.
Très bien. Dites-moi, juste avant votre intervention, Claire a témoigné. Claire nous a expliqué qu'elle a pris la décision de rompre avec son compagnon, mais que finalement, ça faisait un petit moment que ça n'allait plus. Plus de relations sexuelles, plus de communication, plus de projets ensemble, plus de complicité, plus de repas. Donc finalement, il y a un certain nombre de signes avant qu'une rupture soit réellement formulée. Vous confirmez ?
Indépendamment du fait que je confirme, ça a l'air d'être assez évident dans son cas. Oui, il y a un effet, c'est l'iceberg, quoi. Hein, c'est l'iceberg et le Titanic. C'est-à-dire que comme de formuler la rupture, c'est quelque chose qui est quand même d'abord dur à faire. Donc, on a toujours tendance à se dire, bon, mais là, c'est peut-être parce que c'est un passage à vide, ça va peut-être aller mieux plus tard, etc. Et en gros, on construit une espèce de... ça peut être une rancune, un ressentiment ou tout bêtement juste un malheur dans le sens l'opposition au bonheur qui fait que au bout d'un moment on se dit bon bah voilà là on n'en reviendra pas de ce malheur et du coup autant se séparer et généralement d'ailleurs la personne qui se fait larguer et puis qui avait pas forcément vu venir les choses se dit que c'est encore rattrapable alors que oui souvent la rupture, c'est l'expression de quelque chose qui était déjà en place depuis un certain temps et puis qui minait un peu les choses, quoi.
D'accord. Donc, vous avez écrit un livre.
Ça arrive même au meilleur.
Vous avez un concept des 43 jours pour aller mieux.
C'est ça. Moi, c'est un peu par hasard. C'est-à-dire que c'était quelques temps après mon divorce. Et puis j'avais deux copines qui traversaient la même phase et puis que j'avais le soir au téléphone avant qu'elles aillent se coucher et puis elles étaient pas en forme. Elles se connaissaient pas en fait. C'est vraiment un concours de circonstances. J'essayais de leur remonter le moral comme je pouvais avec des conseils à l'entourage de pièces du genre ça va aller mieux, pense à autre chose, change-toi les idées, n'y pense plus, homme perdu de retrouver. Et puis finalement j'étais assez bien placé pour savoir que ce genre de remarques ça sert à rien et du coup je m'étais mis à leur écrire des mails en leur expliquant un petit peu ce par quoi j'étais passé et puis ça leur a tellement plu qu'elles m'ont conseillé d'en faire quelque chose et du coup ce bouquin qui n'était pas un bouquin au départ c'était une séquence d'emails donc à l'époque il y en avait 30, il n'y en avait pas 43, ça s'appelait donc 30 jours pour aller mieux. Et l'idée, en fait, quand on s'inscrit au service, c'est d'avoir tous les matins à 10h un chapitre, donc un mail qui est bourré d'énergie et puis qui renvoie le lecteur à ses propres questionnements et puis qui aide dans le cheminement de la rupture, quoi. Qui est à la fois il y a de l'humour dedans parce que c'est pas la peine de plomber le moral des gens qui lisent ça plus qu'il n'est déjà plombé. Il y a de l'analyse parce que évidemment il faut quand même qu'on comprenne ce par quoi on passe même si c'est pas du tout de la psychothérapie ou quoi que ce soit, c'est très lisible. Et puis il y a une dimension un peu littéraire, c'est-à-dire que je raconte ce qui m'est arrivé on suit une espèce d'histoire et puis on la comprend et puis en fonction des chapitres les gens se projettent et puis trouvent des points communs avec leur propre histoire.
D'accord. Pour trouver votre livre, rappelez-nous.
Alors, vous pouvez le trouver en ligne, dans toutes les bonnes boutiques. Vous pouvez le commander dans des librairies. Donc, il est édité chez Erol. Mm-hmm. Et vous pouvez le trouver, sur Fnac.com, sur Amazon. Vous pouvez le commander en librairie. Vous pouvez le commander sur mon site, sur jemesuisfaitlarguer.fr. Et déjà, si avec tout ça, vous le trouvez pas...
C'est que j'y aurais mis de la mauvaise volonté.
Voilà, c'est ça.
Vous avez plusieurs théories assez originales, et parmi ces théories, vous avez la théorie des guilis et des crottes de nez.
Enfin, c'est sans être vraiment une théorie, en fait, c'est un exemple que je prends souvent pour expliquer que les choses sont souvent une question de point de vue. C'est-à-dire que je demande aux gens quel est le point commun entre les guilis et les crottes de nez. Et puis finalement, c'est la question du point de vue. C'est-à-dire que si vous essayez de vous faire des guilis à vous-même, ben, ça va pas marcher. Alors que si quelqu'un vous fait des guilis, eh ben, ça va vous donner envie de rigoler. Et inversement, quand vous prenez, moi je parle de mes enfants, comme tous les enfants, il leur arrive de manger leurs crottes de nez. Et puis alors, manger leurs crottes de nez, ça a l'air de leur faire ni chaud ni froid. Mais si on leur propose les crottes de nez de quelqu'un d'autre, évidemment, ça va pas beaucoup les ragoûter. Et du coup, c'est la question du point de vue, en fait, est une question essentielle dans la période de la rupture. Et c'est cet exemple que j'utilise pour bien montrer que finalement la rupture est une période pendant laquelle il faut se regarder, se centrer sur soi, mais pas dans une manière complaisante, c'est-à-dire pas finir dans une posture où en gros on s'excuse tout au motif qu'on souffre beaucoup parce qu'on s'est fait larguer, mais au contraire il faut se porter un regard sur soi-même sans concession, sans jugement non plus, mais pour être capable d'en sortir grandi, amélioré et puis surtout plus fort pour la suite, quoi.
D'accord. Après le processus de deuil, après finalement ces 43 jours, on finit par entrevoir des côtés positifs. Alors surtout pour ceux qui sont en plein dans la souffrance, rassurez-les, à un moment donné, on finit par voir le côté positif d'une rupture. Et vous notamment, c'est la possibilité de choisir vos rideaux.
Oui, alors moi, en fait, ça c'est la théorie du chocolat que j'ai piqué à mon frère. Qui lui il a pas vraiment de goût spéciaux sur le chocolat, c'est-à-dire que le chocolat noir ça lui va, le chocolat blanc ça lui va, le chocolat au lait ça lui va. Et en fait, il avait remarqué que comme il est pas très regardant sur le chocolat, et ben en fonction des compagnes qu'il avait, et ben en fonction des goûts de la compagne, il se mettait à manger que du chocolat noir, que du chocolat blanc ou que du chocolat au lait en fonction des périodes. Et du coup, il y a cet effet là où à l'issue de la rupture, évidemment avec des exemples moins triviaux que le chocolat, on se réapproprie un petit peu sa vie, et on se retrouve à devoir choisir le chocolat. Et du coup, on est bien obligé de se poser la question de finalement, qu'est-ce que je préfère ? Est-ce que c'est le blanc, le noir ou le chocolat au lait ? Et moi, en l'occurrence, c'était pour les rideaux, c'est-à-dire qu'un jour, je me suis retrouvé dans la situation où je devais meubler mon appartement. Et donc, j'ai été au plus simple, j'ai pris des rideaux blancs. Et en fait, en allant acheter des rideaux blancs, je me suis rendu compte que même dans les rideaux blancs, il y avait encore trois différents types de blancs. Et là, même en allant au plus simple, au plus fonctionnel, etc., j'étais quand même obligé de choisir. Et ce qui était une espèce de contrainte au départ, en fait, est devenu un vrai plaisir pour moi. Et puis maintenant, j'ai un peu découvert, en l'occurrence, les joies de l'aménagement d'intérieur, alors que finalement, c'est un truc qui était une chasse gardée quelque part dans mon couple, mais qui n'était pas la mienne, quoi.
On l'a compris, Basile, vous vous êtes séparé de la mère de vos enfants, vous avez choisi vos propres rideaux. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vous poser la question indiscrète, avez-vous retrouvé l'amour, Basile ?
Alors, oui, on peut me poser la question, mais moi, je la renvoie sous la forme d'une autre question. C'est-à-dire que, justement, ça, c'est une question qui est dangereuse, dans le sens où elle suppose que je ne serai complet et je ne serai entre guillemets guéri de ma précédente relation qu'à condition d'en avoir retrouvé une autre.
C'est juste parce que j'avais une autre question derrière et pour ça j'avais besoin d'avoir cette réponse là.
Alors, si vous voulez savoir si je suis en couple en ce moment, la réponse courte est oui, mais la réponse donc un peu moins courte est je pourrais très bien ne pas l'être et être très heureux quand même. Alors allez-y, je suis
d'accord. Alors, ma deuxième question, c'est finalement, depuis que vous êtes en couple, est-ce que vous avez gardé vos mêmes rideaux ou c'est votre nouvelle compagne qui a choisi les rideaux que vous avez actuellement ?
Alors non, c'est toujours mes rideaux, mais ça, c'est pas un conseil que je donne, c'est juste un choix de vie. Et moi, j'ai pas l'intention de refaire appartement commun. Je préfère du tronc et comment il s'appelle, c'est François Hardy, où chacun son appartement et les rideaux seront bien gardés.
D'accord.
Est-ce que ça vous va comme réponse?
Tout à fait, tout à fait. Vous parlez d'une chose qui, à mon avis, va parler à beaucoup de personnes qui se sont séparées, c'est que quand on se sépare, finalement, il y a une course à qui va être le plus heureux, qui va retrouver quelqu'un le plus rapidement, qui va se remettre en couple, et du coup, on a tendance à prendre des relations pansement ou la première personne qui passe pour finalement gagner cette course.
Oui, disons que c'est un peu plus... évidemment, le résultat, c'est ça, mais généralement, ce qui est douloureux dans une rupture, c'est que la personne qui avait fait le choix de vivre avec vous, d'un seul coup, complètement publiquement, fait le choix inverse, qui est de dire « Bon, je me suis trompé, en fait, cette personne ne méritait pas que je vive avec elle, parce que ça. » Alors, évidemment, c'est un peu plus complexe que ça, mais du coup... En gros, on subit le camouflet d'avoir été désavoué par la personne qui partageait votre vie, sa vie avec vous jusque-là. Et du coup, une des manières, c'est évidemment une vue de l'esprit, hein, parce que c'est pas le cas, mais une des manières dont les gens imaginent qu'elle va essuyer le camouflet d'avoir été quittée, c'est de retrouver quelqu'un et puis d'aller montrer sur Facebook qu'on va très bien et puis qu'on est parti en vacances à tel endroit et puis qu'on boit des mojitos en terrasse, etc., etc. Et du coup, cette course au bonheur, elle est hyper fallacieuse. D'abord parce que on donne à voir ce qu'on veut bien donner à voir, et donc les dimanches soirs où en fait vous êtes devant un film de la 6 avec votre pot de Nutella alors que vous venez de poster sur Facebook un truc qui fait semblant de montrer que vous allez très bien. Enfin, je veux dire, la partie adverse joue exactement au même jeu. Et du coup, d'aller se mesurer à un truc qui est complètement pas mesurable, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Après, si on le prend comme Frank Sinatra le disait, « The best revenge is massive success ». Donc, la meilleure revanche, c'est le succès massif et incontestable. Je pense que il y a une dimension vaniteuse dans ce truc-là. Qui est un peu dangereuse, mais qui a au moins le mérite d'être centré sur soi au lieu de se comparer à l'autre, quoi.
Ah, alors c'est vrai qu'on le fait pour l'image, parce que comme vous le dites publiquement, on a laissé entendre que on n'était pas apte à l'amour, mais on le fait peut-être aussi pour soi, pour reprendre confiance en soi, en ses capacités de séduire, en ses capacités de tenir un couple, d'être amoureux et de faire en sorte que quelqu'un d'autre soit amoureux de soi aussi.
Oui, je comprends que ce soit un raccourci pratique, c'est-à-dire que finalement, si on s'aime pas assez soi pour sortir de la dépression et puis pour, je dis ça avec un gros mot, on sort pas forcément de la dépression, mais en tout cas pour se remettre d'une rupture en se disant que finalement on vaut pas si peu que ça et pas si peu que notre rupture récente pourrait le laisser croire.
Parce que la rupture, elle égratigne l'estime de soi.
Mais c'est ça. Et donc, en gros, si on s'aime pas assez et qu'en revanche, quelqu'un nous aime à notre place et qu'on arrive à le prouver dans une nouvelle relation, fatalement, ça nous dispense d'un travail sur soi. Mmh, et c'est pour ça qu'il y a cette expression des relations pansement, c'est qu'en gros, elle nous dispense de l'introspection, quoi. Et c'est bien dommage.
Oui, c'est bien dommage. Vous-même, vous avez fait cette introspection?
Je gagne presque ma vie avec, donc je crois qu'on peut dire que je l'ai au moins faite en partie. Après, ce serait un peu prétentieux de dire que le boulot est fini, et puis c'est l'intérêt de la vie que d'avoir des surprises. Donc je suis pas sûr que ce soit à moi de répondre à cette question-là, mais en tout cas, ça va pas mal en ce moment, quoi.
D'accord. Bon, ça nous rassure quand même.
Vous êtes bien gentil de vous inquiéter de ma santé.
Je vous en prie. Il y a des statistiques, Basile, qui disent que c'est souvent la femme qui quitte, et notamment Claire a validé, validé cette stat, puisqu'elle nous disait que c'est elle-même qui avait pris l'initiative de rompre dans sa relation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, moi, je trouve ça hyper dangereux comme statistique. D'abord, la statistique, c'est comme la mini-jupe, ça en montre beaucoup, mais ça cache l'essentiel. Ce qui cache derrière ce que cache cette stat là, c'est que déjà elle suppose que la personne qui verbalise la rupture, c'est la personne qui l'a ourdi. Alors que c'est pas vrai. Si vous écoutez les gens, il y en a pas mal qui vont vous expliquer que en fait, les mecs étant trop lâches pour larguer les filles, en gros, ils vont se rendre complètement détestables jusqu'à ce que les filles finissent par les larguer. Ce qui prêcherait pour l'hypothèse de c'est plus les filles qui larguent que les mecs. Mais finalement, la question, est-ce que c'est de savoir si qui est-ce qui a largué ou est-ce que c'est de savoir qui est-ce qui en souffre? Et ça, moi, je rencontre pas mal de nanas qui, justement, dans un contexte comme celui-là, eh ben, elles ont fini par larguer un mec, mais en fait, elles l'ont largué, c'est elles qui ont verbalisé le truc, mais elles en souffrent comme si elles avaient été larguées. Et ça, c'est quelque chose qui est assez déculpabilisant de se dire que oui, on peut avoir verbalisé, avoir largué un mec ou une nana, et néanmoins en souffrir plus que le mec ou la nana qu'on a largué. Parce que généralement, ça paraît un peu contre-intuitif. C'est-à-dire que vous avez, vous avez largué votre mec ou votre nana, et puis vous en souffrez beaucoup, vous en émeuvez à vos potes, et puis vos potes vous disent, t'avais qu'à pas le larguer, quoi. Et ça vous renvoie une forme de culpabilité que vous subissez. En gros, on vous condamne à vous taire sous prétexte que c'est de votre faute. Mais en fait, on peut très bien subir une rupture qu'on a verbalisée.
Oui, finalement, de toute façon, dans une relation, on est deux. Et dans une rupture, on est toujours deux, finalement, peu importe qui la verbalise.
C'est ça, mais comme les gens ne le pensent pas. Oui, c'est ça. Et les gens, comme ils imaginent que dès qu'on est responsable de la rupture, on ne peut pas en souffrir, en général, ils se retrouvent coincés dans une impasse, quoi.
C'est très intéressant. Je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce schéma-là. Vous avez une autre théorie qui peut-être n'est pas une théorie, mais quand même, le canard jaune qui fait coin-coin.
Alors, c'est un genre de dicton. Quand j'ai quelqu'un qui me raconte l'histoire de sa relation et puis qui a pas l'air d'en tirer les conclusions qui pourtant semblent s'imposer, j'ai cette phrase qui dit si c'est jaune que ça fait coin-coin et que ça a les pieds palmés, il y a quand même de fortes chances pour que ce soit un canard. Sous-entendu, ce que tu viens de me raconter ressemble quand même à un truc qui depuis des années sentait la rupture, et aujourd'hui tu sembles surpris de la rupture. Alors c'est un exemple évidemment, mais c'est comme le Canada Dry, quoi. À un moment, quand ça a le goût et l'odeur, il faut se rendre à l'évidence, c'est que c'est forcément ce dont on est en train de parler, en l'occurrence la rupture.
Alors. A priori, vous souhaitiez, Basile, que vous avez peut-être un contretemps, donc on vous attend peut-être.
Non, je vous en prie, pas de souci.
D'accord. Dites-moi, quand on est confronté à un proche qui s'est fait larguer, c'est vrai que c'est toujours délicat, on ne sait pas quoi dire, on dit des choses bateaux, des choses pas très très originales et finalement qui ne servent à rien. Est-ce que quel conseil vous pourriez nous donner? Et que l'on pourrait donner à un proche qui s'est fait larguer et qui en souffre finalement.
Alors, quand vous êtes le proche de quelqu'un qui s'est fait larguer, sans vous en rendre compte, en fait, vous aidez votre proche à améliorer sa version. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est très dangereux, en fait, c'est que pour se dédouaner de toute responsabilité, au fur et à mesure qu'on raconte l'histoire de sa rupture, on améliore son discours. C'est-à-dire que quand vous racontez ça à vos potes, vos potes, ils vous disent « Ouais, enfin, regarde, à tel moment, t'as fait ci, t'as fait ça, et puis c'était quand même pas bien glorieux, donc c'est normal qu'elle t'en ait voulu, ou je sais pas quoi. » Et là, vous allez le retenir, et puis vous allez améliorer votre version qui va vous dédouaner de « Oui, mais ce jour-là, ceci, oui, mais ce jour-là, cela. » Jusqu'à ce que votre version ne soit plus attaquable. Et là, en général, ce qui se passe, c'est que vos potes autour de vous, comme ils sont un peu à court d'arguments et qu'ils peuvent difficilement attaquer votre version, ils vous laissent répéter cette version ad lib. Et le grand drame, en fait, c'est qu'en répétant cette version, la personne qui répète une version, au départ, elle sait que c'est une version un peu romancée qui vous soulage parce que finalement, elle vous donne le beau rôle et elle explique que l'autre, c'est vraiment la méchante ou le méchant. Et ce qui est dramatique, en fait, c'est que en quelques mois de ce régime-là, vous vous convainquez de ce truc-là, et au bout d'un moment, cette version, qui est évidemment une réversion améliorée, eh ben, elle devient dans votre esprit la réalité, et à son tour, elle vous dispense de l'introspection. Ouais, et du coup, le conseil que je donne aux gens qui ont quelqu'un dans leur entourage qui s'est fait larguer, c'est de ne jamais arrêter, même quand on est à court d'arguments, de dire que bah oui mais c'est pas aussi simple et il faut être deux pour s'engueuler et évidemment que tu as ta part de responsabilité même si ta version telle que tu la racontes est une version qui est bien pratique pour toi parce qu'elle te permet de ne pas te remettre en question, mais la réalité c'est pas ça et tu le sais. Et en rappelant à quelqu'un qui s'est fait larguer et qui s'est inventé une espèce d'histoire à laquelle il croit dur comme fer que cette histoire n'est pas du tout aussi vraie que ça et qu'on se connaît depuis suffisamment longtemps pour que tu n'essayes pas de me mener en bateau, eh ben ça, c'est le meilleur service que vous puissiez rendre à quelqu'un qui est dans cette phase-là.
En tout cas, on voit que vous maîtrisez bien le sujet.
Il paraît, oui.
Et vraiment, si un jour je me fais larguer, je suivrai vos conseils volontiers.
Ben, écoutez, j'ai des copains qui ne s'étant pas fait larguer ont lu le bouquin et ont trouvé que même d'un point de vue littéraire, ça avait de l'intérêt. Donc, je vais le lire quand même alors.
Je rappelle aux auditeurs que votre livre s'appelle « Je me suis fait larguer » édition Erol, qu'il est finalement disponible dans les bonnes boutiques du net.
Oui, et puis pas que du net. Hein, si vous le commandez, en quelques jours, il vous sera livré.
Bon, bah parfait. Et vous l'aurez en vrai, en dur, et vous pourrez le lire, surtout pour ceux qui sont confrontés à une rupture et qui savent pas finalement comment la gérer. Bah, suivez les conseils de Basile. Il maîtrise bien son sujet. Il a de l'humour. Il connaît. Il maîtrise. Et ça me paraît assez pertinent.
Voilà, et puis moi je suis quelqu'un d'assez facile à joindre dans la vie, donc basile@jemesuisfaitlarguer.fr, ça arrive chez moi et je réponds à tous les mails que je reçois.
Super, donc n'hésitez pas à écrire à Basile. Basile, je vous remercie beaucoup pour votre intervention ce soir.
Avec grand plaisir.
Passez une très très bonne soirée.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.
Comment se relever d'une rupture sentimentale? Quels conseils pour faire durer son couple? Valérie, votre love coach sur O2 Radio.